Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour et bienvenue à bord. Vous avez pris place dans l'émission 7 milliards de voisins et nous allons voyager ensemble pendant exactement 47 minutes à une altitude convenable, pas trop de hauteur pour que vous puissiez admirer le paysage. Mais en raison d'un plan d'économie, nous ne servirons aucune boisson ni collation. Je vous souhaite un très bon voyage tout de même. Aujourd'hui, avec nos deux invités, pilote de ligne, commandant de bord aussi, posez toutes vos questions, toutes les questions qui vous taraudent sur les avions. Ils sont là pour vous répondre avec moi dans ce studio. Gérard Felzer, bonjour.
Bonjour.
La moitié de votre vie dans les airs, vous avez été commandant de bord chez Air France, directeur du musée de l'air aussi au Bourget, et vous êtes connu comme consultant aéronautique. Dès qu'il y a un crash quelque part sur la planète, eh bien vous intervenez dans les médias.
Oui, il n'y a pas que pour les avions d'ailleurs. Je fais aussi les trains, les bus. Enfin bon, quand on me rencontre dans l'ascenseur, on dit tiens, il y a eu un crash.
Et c'est donc Gérard Felzer qui y arrive. Vous publiez Si tu peux, vas-y. C'est votre journal d'un pilote aventurier chez XO Éditions. Donc le titre, Si tu peux, vas-y, ça vient d'où?
Alors ça s'adresse à beaucoup de gens. Le dernier, c'est Nicolas Hulot. Bon, ça n'a pas marché.
Vous étiez dans son giron pour le soutenir, pour qu'il se présente comme candidat aux prochaines présidentielles, mais il a craqué, il a dit non.
Oui, il a dit non. Et puis non, c'est mon oncle qui était pilote de chasse en Normandie-Niémen, une escadrille du côté des soviétiques pendant la guerre, qui disait toujours ça, donc j'ai appris sa phrase.
Vas-y, donc si tu peux, vas-y, et vous y êtes allé, donc journal d'un pilote aventurier, vous êtes également député européen, Europe Écologie Les Verts.
Député européen, non, j'étais conseiller régional, Europe Écologie Les Verts, mais j'ai abandonné la politique là.
Mais vous devez quand même avoir le pire bilan carbone de tous.
Oui, j'ai fait le calcul, c'est ce que je disais à Cécile Duflo, 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. Ça calme.
Ça calme toutes les ardeurs
bon,
écolo.
D'un autre côté, j'ai transporté pas mal de monde non plus. Et puis c'est vrai que les avions modernes aujourd'hui, c'est 2 litres à 3 litres au 100 par passager.
Jean-Christophe Laminette également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en direct d'Aix-en-Provence, donc on remercie les équipes de France Bleu de vous accueillir. Vous sortez votre premier livre, c'est Captain Speaking, inventaire malicieux à l'usage du passager inquiet ou pas d'ailleurs. C'est chez Jean-Claude Lattès. Et vous avez passé 25 ans chez Air France pour finir commandant de bord. Mais vous êtes déjà à la retraite, c'est bien jeune.
Oui. C'est un exploit presque. Non, j'ai dû, ça fait partie du livre, j'ai perdu mon aptitude médicale et donc j'ai dû quitter ma fonction. Et donc c'est un gage de sécurité, comme je l'ai écrit dans le livre, puisque quand on n'est pas apte, eh bien on arrête, tout simplement.
En tout cas, votre livre se présente sous forme d'abécédaire. On va de A à aérogare, donc là on comprend que c'est la gare des avions, jusqu'à Z, où l'on apprend que la lettre Z donc, se prononce Zoulou dans la radio de bord et non pas Zen. Ça aurait pu quand même déstresser tout le monde. C'est quoi votre mot préféré dans cet abécédaire, Jean-Christophe Laminette?
Ah, moi, j'aime beaucoup le hublot. Je crois que le hublot, il résume tout ce qu'est le voyage en avion. Il faut savoir se pencher au dehors pour constater qu'on vole et apprécier la situation. Je crois que ça pourrait être ça, le hublot.
Ça pourrait être le H, alors, de hublot. Les voisins, les voisines, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et profitez de nos deux experts donc pour poser toutes vos questions et vos messages sur Facebook aussi. Alors, on a beaucoup de messages qui arrivent, ça déchaîne quand même pas mal les passions, les avions. Il y a Mustapha de Bamako qui nous dit « J'ai peur de l'avion, et même si je sais que c'est le moyen de transport le plus sûr. » Quand même, en Afrique, il émet un bémol, il dit « Nous avons le record de victimes par accident aérien. » Donc ça, il faut en tenir compte. Narouwa de Londres qui nous demande « Comment un avion peut-il disparaître totalement des écrans radar ?» Et Alassane aussi de Dakar voudrait vous demander Gérard Felzer, seriez-vous quand même expliquer pourquoi ce vol Malaysia Airlines a disparu depuis maintenant 3 ans et qu'on n'a toujours aucune nouvelle, qu'il n'a pas été retrouvé? Comment en Dieu est-ce possible? Aaron de Caisse qui nous demande quelle est la phase la plus difficile dans la conduite d'un avion. Donc on posera la question à nos deux pilotes. Et Gaëtan de Cara, par exemple, au Togo, qui lui. Alors une question vraiment intelligente, y a-t-il des voies justement pour que les avions empruntent dans le ciel? Est-ce qu'il y a des routes donc dans le ciel et comment sont-elles définies? Restez avec nous, continuez, on répondra à toutes ces questions. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors d'abord, pourquoi pilote, commandant de bord? C'est un métier qui fait autant rêver. Il y a Nassem de Lomé qui nous dit « Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours admiré les pilotes, voir ces hommes piloter un engin aussi impressionnant qu'un avion. Ça m'inspire, Gérard Felzer. »
Ah oui, d'abord c'est de la technologie. Moi qui avais une formation d'ingénieur avant d'être pilote, j'étais fasciné par ça. Mais il ne faut pas s'arrêter à la technologie. Il y a l'aspect humain qui est quand même hyper important. Et le premier chef pilote à Air France était un mec qui s'appelait Mermoz. Et il avait cette notion d'équipage. D'ailleurs, équipage, magnifiquement écrit par Joseph Kessel. Eh bien, c'est ça. C'est les relations humaines. On apprend beaucoup de choses dans un cockpit. Comment on se parle, comment on se comprend, etc. Et c'est là que si on ne se comprend pas, c'est ce qu'on appelle les facteurs humains, ben, c'est le début des ennuis.
Le début des conflits qu'on a vu souvent, effectivement, chez Air France, par exemple. Pour vous, comment vous y êtes arrivé, Jean-Claude Laminet, de votre parcours pour devenir pilote?
Eh bien, écoutez, j'y suis arrivé, ben, comme disait Gérard, en rêvant enfant à ces avions et comme disait votre l'auditeur, j'ai eu envie d'y aller parce que les avions me faisaient rêver en tant que machine. Et puis l'idée, surtout de voler, hein, de traverser le monde et de survoler le monde, bien sûr. Et surtout, c'est vrai que derrière, j'ai été surpris de découvrir ce que vient de dire Gérard, c'est-à-dire tout ce rapport humain, ce travail d'équipage est tout à fait à part dans un espace très confiné. Et voilà, ça c'est la deuxième partie, tout en avec l'énorme plaisir d'utiliser ces machines qui sont de plus en plus performantes et c'est très très grisant, quoi, évidemment.
C'est vrai que côté grisant aussi, c'est un métier qu'on dit souvent lié à l'aventure, quand même, au voyage, mais on ne fait que survoler le monde quand même. On dort dans des hôtels, on revient, on n'a pas vraiment le temps quand même de profiter du monde, Gérard Felzer.
Alors, ça dépend. S'il y a des rotations, il y en a de moins en moins qui durent longtemps. Eh bien, on a le choix de rester dans sa chambre d'hôtel ou de sortir. Moi, j'avais toujours mon parapente sur moi. Donc, je volais partout. Et c'est une bonne façon de voler avec des amis au Venezuela, à Bogota ou ailleurs, à Madagascar. Et puis, de créer des contacts. Et puis, la terre est si belle partout que ça vaut le coup de s'évader. Et surtout, de ne pas rester dans sa chambre d'hôtel.
Alors, il y a une question de Mathieu de Bamako sur Facebook. Il dit quand même, qui est le vrai pilote d'un avion? Est-ce que c'est celui qui est dans le cockpit de l'avion, où sont les personnes qui sont dans la tour de contrôle? Qui c'est vraiment le chef à bord?
Alors, Jean-Christophe va peut-être répondre, mais en tous les cas, il est évident que c'est le commandant de bord qui travaille en équipage, encore une fois, mais c'est lui qui décide de tout, y compris pour des évitements d'avion. S'il pense que c'est dangereux, il peut surpasser le contrôleur. Le contrôleur n'est là que pour réguler et pour dire les risques qu'il peut y avoir avec les autres avions dans le ciel, qu'il les voit, lui.
Donc ça fonctionne comme un binôme, Jean-Christophe Laminette?
Ah oui, tout à fait, Gérard a complètement raison. Et c'est le pilote absolument et c'est le commandant de bord qui est décisionnaire. L'équipage, évidemment, des deux pilotes travaille à la conduite du vol. Mais il y a une idée reçue là qui traîne un peu en disant que les contrôleurs ou des choses automatiques dirigeraient les avions à notre place. Non, c'est vraiment les pilotes qui agissent en toutes circonstances et évidemment même à l'encontre des ordres des contrôleurs lorsqu'il y a des problèmes d'évitement potentiels à mettre en œuvre, bien sûr.
Alors, comme on est installé là dans le cockpit, qu'est-ce qui est le plus plaisant, je dirais, vous, quand vous êtes installé dans le cockpit aux manettes de l'avion, Gérard Felzer?
Exactement la même sensation que quand je suis en parapente ou quand vous êtes en parapente, c'est-à-dire vous dévalez la pente et tout d'un coup vous sentez tiré par les bretelles, vous allez quitter le sol. Et ça, c'est un moment magique. Pour moi, le décollage, c'est le début de l'aventure.
Alors ce décollage, il se trouve qu'hier j'ai regardé à la télévision, il y avait un documentaire où, parce que moi j'ai jamais pu rentrer dans un cockpit. Quand on demande comme ça, on arrive dans l'avion, on aimerait bien faire un tour, mais c'est interdit, hein, personne ne
veut pas rentrer. Ouais. Ça arrive quand même.
Ça arrive, ouais. Bon, il faut être pistonné.
Moi, je me souviens pas d'avoir fait un seul vol sans avoir quelqu'un à inviter.
Ah, bon, en tout cas, moi c'était plutôt zone interdite pour moi. Et là j'ai vu que vraiment au moment de ce décollage dont vous parlez, Gérard Felzer, il a vraiment le pilote, il a sa main droite tranquille sur la cuisse et la gauche. Il manie comme ça le joystick, enfin il monte la manette et c'est tout, quoi. C'est hyper simple.
Oui, c'est la techno. Ouais. Donc on a un mini manche sur les Airbus, on a un vrai manche mais qui finalement c'est de la commande électronique, donc ça revient au même. On n'a pas voulu déstabiliser les pilotes peut-être, mais en tous les cas c'est... C'est comme ça. Et ensuite, ça suit. Alors, on se rend compte de sa puissance, si j'ose dire, en se penchant par la fenêtre et on regarde son aile derrière. Et on voit ce truc qui fait 200 tonnes, 300 tonnes, qui se met à virer sur une petite impulsion sur le manche. Et là, on s'aperçoit qu'on est aux commandes d'un truc qui n'est pas neutre.
Jean-Christophe Laminette, vos instants les plus plaisants dans le cockpit?
Oui, c'est certain qu'il y a le décollage et puis des moments évidemment de grâce quand on survole certains lieux. Le décollage, Gérard vient de le dire, c'est ce moment d'arrachement et puis le pilotage lui-même à cet instant du vol où on ressent complètement toutes les actions qu'on est en train de produire. Vous disiez tout à l'heure que le pilote avait l'air calme en bougeant juste. C'est vrai qu'on ne touche plus aux manettes une fois qu'elles sont crantées à la bonne position, à la bonne poussée, mais c'est vrai qu'avec la main gauche ou avec un manche sur Boeing, on pilote soi-même les trajectoires. Et au-delà de ça, bien sûr, le grand moment, c'est le survol quand même de certains lieux, le fait de croiser. Ça aussi, c'est un moment un petit peu émouvant quand vous, par exemple, vous descendez en Afrique du Sud de nuit. Eh bien, à un moment donné, vous allez croiser le British Airways qui remonte de Johannesburg, qui va vous faire un appel de phare, puis Air France qui va...
Un appel de phare dans les airs.
Voilà. On se fait des appels de phare. Donc, c'est très sympa. C'est un petit moment où on rentre en contact comme ça, et puis hop, chacun repart dans sa bulle, et on est au-dessus comme ça, du monde en pleine nuit. C'est particulier quand même.
Je voudrais revenir sur la question de Gaëtan, donc de Cara au Togo. Il se demande justement comment sont définies ces routes qu'empruntent les avions.
Sont des trajectoires qu'on appelle les airways, des chemins prédéterminés qui sont assez précis. Ça permet d'espacer les avions en hauteur. Ils sont espacés à environ 300 mètres. Et puis, en espacement latéral, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes derrière. Et ça permet de fluidifier parce qu'il y a quand même de plus en plus d'avions. Il y a 30 millions de vols par an dans le monde. Donc, il faut les placer. Et c'est pour ça qu'on fait les routes aériennes.
Et sur ces routes, vous êtes en pilotage automatique, on peut dire ça comme ça, Jean-Christophe Laminette?
Voilà, lorsqu'on est en croisière, on est en pilotage automatique, c'est important pour le confort de tous, et puis ça ne servira à rien de piloter soi-même dans ces phases-là. Donc le pilote automatique, de ce fait, est raccordé à un calculateur qu'on a à bord et qui a en mémoire un plan de vol qui est malléable, qui est celui qui est déposé auprès du contrôle aérien, mais qui peut évoluer en fonction des desiderata des pilotes, de la météorologie, d'autres informations qu'on peut recevoir. Voilà. Mais le pilote automatique suit ce qu'on lui demande de faire de ce fait, quoi.
Alors, on reste dans les airs, hein. On écoute 7 milliards de voisins pour avoir toutes les informations sur les avions en vol ou à terre. On continue après Keep on Hoping de Raoul Midon. Do you know what it's like to wonder? And do you know what it's like to be alone in love with the one you adore? And do you know what it's like to hold her? Yes, I do. Do you know what it's like to feel the way I do? Well, if she only knew. Gonna keep on hoping that she catches my smile. I'm gonna keep on hoping that she likes my style. I'm gonna keep on hoping one day she'll be mine. And did you ever wish you could get away? Like to want her, yes I do, and to breathe her name in every song you sing. Well, she is in everything. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les avions, les voisins, les voisines, stressés ou pas. D'ailleurs, à l'idée de prendre l'avion. Alors, nous allons prendre tout de suite Rick qui nous appelle de Douala. Bonjour Rick.
Bonjour Sandrine.
Alors, merci d'écouter RFI, les 7 milliards de voisins. On vous écoute, vous avez plein de questions. Alors, on va les prendre une par une. On commence par la première, Rick.
Ok, la première pour moi, j'aimerais savoir quelle est la responsabilité des pilotes à bord d'un avion. Avec la vague d'attentats que le monde connaît aujourd'hui, la première question pour moi, c'est de savoir déjà quelle est la responsabilité des pilotes à bord? Je ne sais pas s'il faut que je donne toutes les questions une fois.
Non, on va écouter celle-là déjà, Gérard Felzer.
Le commandant de bord est responsable de la sécurité de ses passagers également. Donc, il y a certaines règles qu'il doit faire respecter, contrôler les gens, savoir si les gens ont été bien contrôlés au sol, savoir si à bord, il y a un doute sur un passager, eh bien, on essaie de résoudre le problème. On est en constante communication avec le sol et sa compagnie. Voilà, on est le dernier maillon de la chaîne, le dernier garant de ce qui peut arriver, et surtout pour les attentats ou voire pour des suicides. Hein, c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Il y a un pauvre passager qui a voulu se suicider. Il m'avait pris les commandes en vol. Ça s'était très, très mal terminé pour lui, en tous les cas. Et voilà, c'est des choses inattendues. Et c'est pour ça que les facteurs humains sont très importants. Il faut qu'on utilise toute son expérience. Et sa propre expérience ne suffit pas. Il faut apprendre celle des autres également.
Votre deuxième question, Rick.
Ok, la deuxième question est de savoir quelle est la différence fondamentale entre le commandant de bord et le pilote d'un avion.
Alors Jean-Christophe Laminette, est-ce qu'on devient d'abord pilote avant d'être commandant de bord? Comment ça se fait dans le parcours?
Oui, il y a une vraie différence. Alors, il y a quelques petites compagnies sur lesquelles on devient très rapidement commandant de bord parce qu'il y a peu de pilotes, peu d'avions. Quelquefois, l'avion transporte peu de passagers. Donc, ça amène, disons, une progression assez rapide vers la fonction de commandant. Mais dans les grandes compagnies, celles certainement auxquelles pense monsieur, en fait, oui, c'est l'expérience qui compte. C'est un temps, c'est aussi une question de population. Actuellement, par exemple, les copilotes chez Air France souffrent un peu. Ils attendent plus de 15 ans pour passer de copilote à commandant de bord. Ah oui, carrément, puisque malheureusement, moi, les pauvres jeunes copilotes avec qui j'ai volé sont toujours en attente. Mais en revanche, à mon époque, c'était 7 ans. C'est descendu jusqu'à 5-6 ans à une époque. Donc ça dépend des compagnies.
Moi, j'ai fait 13 ans, voilà. Quand même.
13 ans pilote avant de devenir commandant de bord.
Oui, donc c'est...
Donc
c'est,
on y va à l'ancienneté, alors... il faut qu'il y ait la place, mais le travail change ou...
Oui, voilà, le travail ne change pas. C'est-à-dire le travail en lui-même, le pilotage, la fonction de pilotage est la même. En revanche, c'est très différent d'être assis côté gauche parce que d'un seul coup, tout le poids des responsabilités est sur vos épaules et vous devez répondre absolument à toutes les questions qui sont posées à l'équipage et c'est vous qui engagez la responsabilité du vol et donc votre responsabilité. Et c'est absolument passionnant, évidemment, à exercer.
Vous êtes vraiment maître à bord, comme on dit. On va prendre une troisième question. Rick, avant le flash, on vous écoute.
Ok, d'accord. La troisième question, en fait, j'aimerais savoir aussi par rapport à qu'est-ce que les actions que la législation aérienne a prévues pour tout commandant de bord en cas de situation de crise. Peut-être qu'il y a une panne au niveau de l'appareil, il y a un attentat en cours de vol. Quelles sont les actions que la législation a prévues à cet effet pour le commandant de bord?
Une question très précise. Alors, Rick, oui, Gérard Felzer.
Il y a un code de l'aviation civile qui existe. Ce sont des règlements qui engagent la responsabilité du commandant de bord. En général, c'est la compagnie qui, au bout du compte, est poursuivie s'il y a un manquement. Mais il peut y avoir une erreur, volontaire ou pas, du commandant de bord. Et bien, on peut se retourner contre lui. C'est déjà arrivé. On a vu pour le crash du Concorde, on a mis en examen... des pilotes d'essai, des directeurs de programme, etc. Donc, il y a une vraie responsabilité.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie, effectivement, sur ce vol de la Malaisienne qui a disparu. Hein, comment on peut en arriver là au bout de 3 ans sans aucune nouvelle? Aussi, la question de la peur de l'avion qui revient. Vous verrez toutes les bonnes raisons de ne pas avoir peur. En tout cas, elles seront aussi données par nos invités. Et d'autres questions encore. Vous restez avec nous, Gérard Felzer, expert aéronautique. Vous publiez « Si tu peux, vas-y », journal d'un pilote aventurier chez XO Éditions. Et Jean-Christophe Laminette, Captain Speaking, un inventaire malicieux à l'usage de passagers inquiets ou pas. C'est chez Jean-Claude Lattès. Vous restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes après le flash. On attend encore vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur nos réseaux sur Facebook.
RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à bord, les voisins, les voisines. Vous êtes sur le vol RFI 11-07-16 en partance pour le monde entier. Et si vous faites partie du tiers de la population qui a peur de prendre l'avion, eh bien cette émission est faite pour vous. J'ai lu qu'un vol seulement sur 12 millions a un accident. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais du coup, il n'y a quand même pas de quoi paniquer, les voisins, les voisines. Les avions suscitent des tonnes de questions et c'est bien naturel, je dirais, car voler, pour le coup, ça ne l'est pas du tout. Donc, faut-il s'inquiéter, par exemple, quand l'aile fume? Pourquoi n'y a-t-il pas de parachute à bord? Et pourquoi, ça c'est une question perso, pourquoi la nourriture est-elle si mauvaise? On va poser toutes vos questions en 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook, nos deux experts aéronautiques sont là pour vous. Gérard Felzer, bonne moitié de votre vie hein, dans les airs. Toujours, c'est l'ULM hein, maintenant, c'est votre passion. Hein. Vous avez été commandant de bord chez Air France, mais... Vous voulez plus léger, quoi. Vous voulez léger maintenant.
Oui, c'est parce qu'on peut se poser dans les jardins des amis, donc c'est bien, quoi. C'est une liberté totale. C'est pas très cher.
C'est pas cher. Il suffit d'avoir son petit vol. Alors, enfin, ça se présente comment un ULM? Un petit moteur, une voile
et c'est un petit avion, en fait, mais qui est très léger et qui a le droit de se poser partout.
Alors, vous publiez Si tu peux, vas-y. C'est journal d'un pilote aventurier chez XO Éditions. Et avec nous, depuis France Bleu Provence, Jean-Christophe Laminette. Ancien commandant de bord sur Air France aussi, Captain Speaking. C'est le nom de votre livre, un inventaire malicieux à l'usage du passager inquiet ou pas, chez Jean-Claude Lattès. C'est donc sous forme d'abécédaire. Alors j'ai vu que, c'est assez astucieux, j'ai vu qu'à R comme rang 13, ben là on apprend qu'il y a justement, il n'y a pas de rang 13, hein, Jean-Christophe Laminette. Pourquoi ?
Je crois que c'est parce qu'il faut ménager quelques susceptibilités. Mmh. Non, oui, y a les gens sont un peu superstitieux. Alors, l'avion oui, véhicule certaines craintes. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'étage 13 non plus dans les hôtels américains.
C'est vrai que ça suscite beaucoup d'angoisse. Et c'est pour ça, alors, du coup, à l'arrivée, à l'atterrissage, les passagers applaudissent. Vous l'entendez, ça, du cockpit?
Ah, ça arrive, oui. Comme disait Gérard tout à l'heure, on a quelquefois des visites au poste, mais il se passait précédemment qu'on avait la porte ouverte. C'était beaucoup plus sympathique et on pouvait entendre, en effet, quelquefois. Alors, ils applaudissent plus franchement lorsque l'approche est un petit peu mouvementée, ce qui n'est pas forcément compliqué pour les pilotes. Le paraît, évidemment, pour les gens qui restent à l'arrière et subissent un petit peu quelques mouvements inopportuns.
Est-ce qu'on applaudit plus sur certains vols que d'autres, Gérard Felzer?
Oui, et puis c'est... ceux qui ont peur en avion, c'est ça s'arrête, l'aventure se termine là. Je crois que c'est Audiard qui disait le voyage en avion, c'est quelques heures d'ennui coupées de quelques minutes de trouille intense. Donc quand les gens se posent, ils sont libérés, donc ils se lâchent.
Ils respirent un grand coup, ils se lâchent, ils applaudissent. Alors la peur de l'avion, j'ai découvert ça, ça a un nom, hein. L'aérodromophobie ou l'aviophobie. Ça touche quand même entre un tiers et 40% des gens. Et pourquoi on a autant comme ça de stress, d'angoisse?
Parce qu'on n'a pas la maîtrise et puis on a horreur et on a peur de l'inconnu. Ça, je peux comprendre. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe devant, on ne comprend pas. Alors, plus on explique et plus ça va. Il y a des stages anti-stress pour ça et c'est fait pour ça et ça marche.
Alors, j'ai quand même compté le nombre de morts par an. C'est quoi, 500 morts à peu près dans le monde?
Oui, alors c'est à comparer... 500 morts par an, bon, c'est toujours un mort de trop, mais c'est à comparer aux millions de morts, 1 million de morts sur les routes, et 50 millions de blessés. L'arme fatale, c'est vraiment la route. D'ailleurs, moi, je dis toujours, l'aviation, c'est dangereux, mais c'est surtout sur la route qui mène à l'aéroport.
C'est là où on a le plus de risques d'avoir un accident, plus que dans l'avion à proprement dit. Et pourtant, ça ne calme pas les peurs quand on dit rationnellement qu'il y a un vol sur 12 millions, par exemple, avec un risque, avec un accident. Oui. Mais ça ne suffit pas à rassurer.
Alors, ça, Jean-Christophe est mieux placé que moi pour parler de cette psychologie, cette psychose aussi, de l'inconnu, de l'enfermement. Il y en a qui sont claustro aussi, ça compte. Ça se soigne, mais il faut se prendre en charge. Et puis, il y a des tas de gens que ça handicape vraiment. Je pense à Alain Souchon, par exemple. C'est un copain que... on a fait un petit record du monde, j'en raconte ça dans le bouquin, ensemble, parce qu'il jouait le rôle d'un pilote dans un de ses films. Et, le vol du Sphinx avec Miu Miu. Je l'ai emmené dans un petit avion, on a fait un record du monde, ça l'a calmé. Et puis après, il a joué son rôle de pilote.
Alors, mais par exemple, il y a des tas de questions qu'on se pose justement pour ceux qui sont un peu anxieux. Est-ce qu'il vaut mieux s'asseoir à l'avant ou à l'arrière de l'avion, Jean-Christophe Laminette ?
Oui, j'ai mis malicieusement, j'ai indiqué ça dans le livre. Oui, alors évidemment, à l'avant, s'il y a un accident, on est plus exposé que si on est à l'arrière, parce que l'avion se déplace vers l'avant, mais c'est plutôt, il faut voir ça de manière malicieuse. Non, c'est vrai que quand il y a des crashs, les gens de l'arrière sont. Il y a plus de. Statistiquement, il y a plus
de. On a plus de chances de s'en sortir à l'arrière qu'à l'avant.
Oui, mais enfin, bon, je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Pour rebondir sur ce que disait Gérard, évidemment. C'est la connaissance, hein. Moi c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est pour aller vers les gens, c'est leur dire. Le fait de ne pas comprendre amène des peurs, et ça c'est général, ça c'est pas propre à l'aviation, et ça crée des phobies, et surtout je voulais insister sur le fait que la seule nuance en fait entre les pilotes et puis l'arrière de l'appareil, il y a déjà la porte qui est fermée certes, mais il y a une connaissance quoi, tout simplement. Les pilotes ne sont pas plus courageux que les passagers, ils ont une connaissance, et après tout il n'y a pas de raison de ne pas essayer de comprendre un peu mieux pour évacuer ces peurs. Les chiffres ça ne suffit pas, hein, de dire qu'il y a peu de morts, c'est vrai, 500 morts l'année dernière, dont en plus deux accidents qui sont liés à une criminalité, sur 3,5 milliards de passagers, c'est quasiment rien. Mais ça n'empêche pas les gens d'avoir peur. En fait. Mais
est-ce que les gros appareils sont-ils plus sûrs que les petits, Gérard Felzer?
C'est équivalent. Enfin, les petits, ça dépend ce qu'on appelle petit. L'aviation générale, c'est-à-dire les petits monomoteurs, les aéroclubs, statistiquement, il y a beaucoup plus d'accidents parce que ce sont des pilotes amateurs, qu'ils volent peut-être pas assez dans l'année, qui prennent quelquefois des risques sans le savoir. Donc, oui, la petite aviation est peut-être plus dangereuse que la grosse. Et puis, on ne peut pas jouer avec les peurs. Moi, je me souviens, un jour, je revenais de Madagascar et j'avais installé, c'était un 1er avril, j'avais installé un petit stand pour vendre des parachutes ou louer des parachutes. Donc, on en a loué. Alors, c'était des sacs avec dedans, il n'y avait rien. Et les gens achetaient leur truc. Et puis, on finit par leur dire, non, c'était un gag, mais pas du tout.
Mais ça, c'est une question qui remonte. Pourquoi il n'y a pas de parachute à bord, Jean-Christophe Laminette ?
Oui, alors je m'en suis amusé dans le livre, évidemment, parce que il n'est pas imaginable de sauter d'un avion de ligne. Déjà, sauter en parachute, c'est une technique, c'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, ça s'apprend. Et alors, 500 passagers qui sauteraient dans un avion lancé à 900 à l'heure à 10 000 mètres d'altitude avec moins 56 degrés dehors, enfin, tout ça est vraiment inconcevable. En revanche, c'est vrai qu'on commence à réfléchir à cette question, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il existe des parachutes pour avions, alors dans l'aviation légère. Et pour un gros avion, ce n'est pas possible vraiment parce qu'il y a les problèmes de vitesse, de poids, d'encombrement, enfin tout ce qu'on veut. Mais ça existe sur les petits avions,
le
parachute quand l'avion est en panne.
Le Cirrus, c'est un avion de 4-5 places, monomoteur. On reste dans son avion, on déclenche le parachute. D'ailleurs, sur tous les ULM, dont le mien, on a un parachute et on reste à bord, et c'est quand même plus confortable.
C'est parce que vous ne voulez pas la même altitude.
Oui, on vole très, très bas et très lentement.
Alors, quels sont les incidents les plus redoutés des pilotes, Gérard Felzer ?
Pour moi, c'est le feu. Parce que c'est peut-être vraiment le moment où il faut prendre une décision rapide. Les situations ne sont jamais les mêmes. On répète sans arrêt ce qui pourrait nous arriver, et il arrive toujours l'impensable. On est entraîné en simulateur tout le long de l'année, 3 fois par an, 4 heures de simu, on a le temps de voir toutes les situations. Enfin, on espère. Et puis, il y a autre chose qui nous aide, c'est le bulletin de sécurité des vols, où on récapitule tous les incidents qui auraient pu ou qui sont arrivés à d'autres pilotes, même dans d'autres compagnies. Et ça peut sauver beaucoup de gens.
D'accord. Donc vous apprenez aussi de tous les autres incidents. Jean-Christophe Laminette, c'est quoi pour vous votre incident le plus redouté ?
Le plus redouté, puis que j'ai eu à affronter de loin, en fait, c'est ce que disait Gérard, c'est le feu, parce que c'est quelque chose qu'on aura du mal à maîtriser, et surtout, il faut agir très très vite. On est à une vingtaine de minutes avant, si jamais le feu n'est pas maîtrisé, avant que la situation soit vraiment incontrôlable. On vient de voir avec Égyptair qu'il y a probablement quelque chose de cet ordre-là qui s'est produit, donc ça reste véritablement la chose la plus dangereuse et redoutée.
Et pourtant, vous dites... Allez-y. Vous dites qu'il ne faut pas pas s'inquiéter si un aile fume. Pourtant, c'est du feu dans l'aile.
Parce qu'elle ne fume pas vraiment. En fait, c'est une impression. C'est parce que lorsqu'on vidange le carburant, on a l'impression que ça fait un espèce de brouillard derrière l'aile. Alors, on vidange le carburant quand on a besoin de se poser, disons, en urgence. C'est surtout parce qu'on a un problème qui fait qu'on ne va pas continuer le vol. Et il y a également les effets de condensation sur l'aile qui provoquent cette espèce de fumée. Non, une aile qui brûle, évidemment, ça, c'est embêtant. Et ça, heureusement, ça ne se produit pas, enfin, jamais. Ou même quand un moteur brûle, on le gère. Et ne fait pas brûler l'aile pour autant. Non, moi, ce que j'ai eu une fois, c'est une odeur de fumée sur 747 au milieu de l'Atlantique, et qu'une odeur de brûlé, pardon, et pas de fumée, justement. Et ça a été évidemment un moment très inquiétant parce qu'on ne savait pas du tout d'où venait cette odeur, et c'était préoccupant. Voilà.
Et c'était quoi au final?
Au final, c'était un ventilateur de conditionnement d'air qui s'était mis en panne et qui avait brûlé d'une certaine façon, comme un système électrique peut le faire. Et on a eu l'indication de la panne un peu plus tard, un voyant s'est allumé. Mais pendant une bonne dizaine de minutes, on s'est demandé si on ne devait pas se mettre en descente. Enfin, on était à une heure des Bermudes, c'était compliqué. Donc ça, c'est si vous cherchez un moment de doute ou en tout cas un moment de perplexité, il est là. Sinon, tout le reste, on sait faire. On est entraîné.
Et de toute façon, vous ne montrez rien. Vous ne montrez rien à tous les passagers.
C'est pas nécessaire.
Ouais, peut expliquer, on explique. Par exemple, j'ai eu alerte à la bombe sur un Tel Aviv. Donc, on a dit, tu as une bombe à bord qui va exploser dans un quart d'heure. Bon, c'est super, les mecs. Donc, là, on descend, on dépressurise. Enfin, il y a des choses à faire. On prévient ou on prévient pas, mais là c'est pas la peine de mettre la trouille aux gens, c'est déjà suffisant. Moi, il m'est arrivé un autre truc sur 747, c'est que à Bagdad, on s'est fait foudroyer, donc plus de radar, plus rien, le terrain ferme, finalement on déroute sur Koweït et il ne restait plus assez de pétrole, donc on est arrivé vraiment juste.
Mais plus assez de pétrole, c'est-à-dire que vous étiez en panne sèche en plein vol
On a eu deux coups juste arrivés, mais il restait pas un quart d'heure. Quoi. Donc là, c'est des moments un peu intenses. Les terrains sont fermés les uns après les autres et on n'avait pas trop le choix. Et là, ce n'est pas la peine non plus de paniquer les passagers pour ça.
Parce que dans votre livre, Si tu peux, vas-y, chez XO Édition, vous parlez aussi, vous avez vécu une panne sèche en plein vol. Alors comment c'est possible de voler même sans carburant?
Alors, panne sèche, ce n'est pas tout à fait ça. Il y avait de l'eau dans le carburant, donc ça a éteint deux réacteurs sur les quatre, mais il nous restait quand même deux réacteurs. Donc on a pu en effet descendre et revenir au point de départ, aux Antilles. Un avion sans moteur, ça s'appelle un planeur. Ce qui est arrivé à Air Transat, une compagnie canadienne, ses deux moteurs, c'est un Airbus 330, est tombé en panne. Il a plané pendant un quart d'heure, 20 minutes même, et il s'est posé au milieu de nulle part, au milieu de l'Atlantique, sur les Açores. Chapeau le capitaine, il est arrivé à faire ça. Il avait fait du planeur avant.
Alors, y a-t-il plus de risques, par exemple, lors du décollage ou de l'atterrissage? Restez avec nous. On va continuer de voyager dans les airs avec des histoires incroyables. D'OVNI aussi, j'ai vu dans votre livre. On écoute d'abord Boeing de Feu Chatterton.
L'Inde d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle, non plus de densité. C'est drôle, non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, boïc. Est-ce la faute de tes passagers un déjà? Si tu penses, jungle embuée d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Ce fantôme peuple ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boeing, Boeing, et tes mouvements lancent de majesté. Boeing.
Boeing. Est-ce la faute de tes passagers allégeants? Si tu penses Boeing, Boeing, et te moment sont de majesté, Boeing, Boeing, Boeing. Est-ce la faute de tes passagers allégeants? Si tu penses à ton cœur, enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin, comme un vieil éléphant.
On est avec deux ex-pilotes de ligne, hein, commandant de bord aussi, Gérard Felzer et Jean-Christophe Laminette, les voisins, les voisines, ils s'en passent de bien bonnes dans les airs. Gérard Felzer, par exemple, vous vous êtes fait passer, c'est ce que j'ai lu, hein, pour des ovnis près de Brest. C'est ce qu'on lit dans votre livre « Si tu peux, vas-y », journal d'un pilote aventurier chez XO Édition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, c'était un gag. C'est vrai qu'à la Postale, c'est un peu particulier. Moi, je suis passé par la Postale avant de passer sur les vols passagers. Et on avait repéré une ligne droite sur une route qui faisait 20 km de long. Et on éteignait les phares, on éteignait les lumières. Et puis, on se mettait face aux voitures et on allumait au dernier moment, genre vers minuit, 2h du matin. Et systématiquement, dans le télégramme de Brest, le lendemain, encore des ovnis sur la route de Brest. Donc, ça a alimenté pas mal de rumeurs. Voilà, ça s'est mal terminé d'ailleurs, parce qu'un jour, il y a un pilote qui s'est trompé de route et il est passé sous une ligne haute tension. Donc, on a arrêté
nos bêtises. Vous faites des blagues comme ça, alors, depuis les airs. Hein. Vous faites beaucoup de blagues, on rigole beaucoup à bord, Jean-Christophe Laminette.
Ah, on rigole, oui, mais on est sérieux. Hein. On ne se prend pas au sérieux. Non, non. Oui, alors la Postale, c'était différent, ce que raconte Gérard. Il n'y avait pas de passagers, donc on pouvait se permettre des choses. Non, mais avec les passagers, ces choses-là ne se produisent pas. Sinon, oui, la bonne humeur est de rigueur, je devrais dire.
Alors, y a-t-il plus de risques, puisqu'on parle aussi effectivement des risques, hein, à bord, plus de risques lors du décollage ou de l'atterrissage, Jean-Christophe Laminette?
Oui, bon, on revient toujours là-dessus parce que c'est la grande question que posent les gens quand ils vous rencontrent, qu'ils savent que vous êtes pilote. Le fait que l'avion soit près du sol, évidemment, va encourager le risque, on va dire, et la puissance des moteurs qui est plein régime au moment du décollage, la vitesse qui est plus faible. On est plus, disons, que susceptible de subir les mauvaises météos ou des choses comme ça. Donc, il se trouve que statistiquement, on est à peu près dans une trentaine de pourcents, je crois, pour l'un et pour l'autre, au moment de l'atterrissage. La proximité du relief, etc., c'est sûr que c'est différent d'être proche du relief que d'être à 10 000 mètres d'altitude, bien tranquille.
C'est comme en voilier, où on risque plus au bord des côtes qu'en pleine mer, quoi.
Ouais. Voilà, on est plus vulnérable. Et m'avait dit un instructeur, d'ailleurs, le moment le plus où on est le plus vulnérable, finalement, c'est l'arrivée au parking, vous voyez, finalement.
Une fois qu'on est posé, alors, c'est quand on...
Oui, oui, ouais. Parce qu'il y a tellement d'intervenants, il y a moins de gens qualifiés autour, etc. Il y a beaucoup plus d'obstacles à éviter. Et finalement, c'est là qu'on craint le plus, mais évidemment... On ne craint pas grand-chose, mais on risque l'incident davantage à ce moment-là que pendant l'approche. Ouais.
Oui, et puis au décollage, on est plein de pétrole aussi. Donc un crash au décollage, c'est vrai qu'il y a un peu plus de risque de feu.
Donc là, ça s'enflamme effectivement immédiatement. Hein.
Pas immédiatement, mais ouais. On l'a vu pour beaucoup d'avions. Ouais.
Alors, en parlant de difficultés, de problèmes, on va revenir sur les questions, par exemple, de Narouba de Londres ou de Alassane de Dakar. Sauriez-vous seulement m'expliquer pourquoi donc, le vol Malaysia Airlines il a disparu depuis 3 ans et qu'il n'a toujours pas été retrouvé? Vous allez prendre votre casquette d'expert aéronautique, Gérard Felzer.
C'est un grand mystère de l'histoire, c'est vrai. Comment un avion, en 2014-2015... peut disparaître. Un Boeing 777, c'est incompréhensible. J'ai fait un documentaire, un 52 minutes, sur RMC Découverte, où on montre les hypothèses. J'ai fait ça avec Jean-Paul Troidec, qui était le patron du BEA, celui qui a retrouvé le Rio, d'ailleurs, le Rio Paris d'Air France. À chaque fois qu'on émet une hypothèse, il y en a trois, hein, en gros, le suicide du pilote, le feu à bord, enfin l'ennui mécanique, et l'attentat. Et bien à chaque fois, il y a une contre-vérité qui s'installe. Et du coup, on ne sait pas.
Est-ce que vous avez votre petite idée, vous, sur la chose ?
La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on a été un certain nombre depuis... Il y a eu le problème du Rio Paris qui avait disparu. On l'a retrouvé au bout de 2 ans quand même. Eh bien, qu'il fallait transmettre une partie des boîtes noires ou une géolocalisation en permanence, jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir repérer les avions. C'est toujours pas fait et on se demande pourquoi. Probablement une question financière.
Et pourquoi, c'était aussi une question d'auditeur, pourquoi est-ce que les informations des boîtes noires ne sont plus lisibles au bout d'un moment ?
Alors, elles sont lisibles, ça dure assez longtemps, mais elles n'émettent plus. C'est-à-dire qu'il y a un petit émetteur qui permet de les localiser et qui dure un certain temps. Et quand il n'y a plus de piles, ça s'arrête.
Alors, on a une question d'un auditeur, c'est Anna qui nous appelle. Non, elle n'est pas encore là tout de suite, mais on va la prendre tout de suite. Ah, dans ma voix, alors. Anna nous pose la question. Je prends souvent l'avion pour de longues distances et lors des traversées d'orage, il y a des turbulences. Comment les pilotes gèrent-ils tout ça ? Quels sont les risques réels en matière de turbulences, Jean-Christophe Laminette ?
Alors, les pilotes, ils les gèrent en cherchant à éviter ces fameux orages. Mais il y a des zones, quand on fait de longs voyages, on voit bien, si on descend en Afrique du Sud ou qu'on va en Asie, il y a des moments où on affronte soit la mousson, soit ce qu'on appelle le front intertropical, qui est une espèce d'équateur, l'équateur météorologique sur la Terre. Alors, nous, on a des radars à bord qui nous permettent d'éviter les zones qui sont les plus critiques. Ces radars sont de plus en plus performants. Il y a maintenant des images satellites qui vont venir... À se rajouter en temps réel pour connaître les lieux où on peut rencontrer la plus forte turbulence. Donc voilà, on cherche à l'éviter, mais on va la subir quand même, très probablement. Après, elle est...
Est-ce qu'il y a un risque réel, donc, avec ces turbulences, de se trouver au milieu de gros nuages, comme ça, de grosses perturbations ?
Oui, disons qu'un risque, c'est pas tant que c'est risqué, ça va être très inconfortable. Après, le risque extrême, comme je l'ai écrit, on n'a pas de cas où l'avion soit brisé ou n'importe quoi, mais on a des cas, en revanche, de début de perte de contrôle de l'avion, récupéré ensuite. Ça, c'est des cas qui sont véritablement extrêmes quand on voit tout ce qui se passe au niveau des vols dans le monde.
C'est-à-dire, vous faites un décrochage, par exemple, tout à coup, l'avion, il n'y a plus de pilote, justement, dans l'avion à bord, et ça, on décroche, qu'est-ce qui se passe ?
Pas vraiment dans le décrochage, mais l'avion part un peu avec la masse d'air, quoi. Donc un peu dans tous les sens, on peut se trouver en difficulté de contrôle pur, quoi. Non, pas vraiment dans le décrochage. Moi, je me suis déjà trouvé, à la limite du décrochage, avec ce qu'on appelle un vibreur de manche sur 747. Bon, c'est des situations inconfortables. Alors, le vibreur de manche, c'est l'invertisseur. Quand vous avez un manche et non pas un mini-manche, il y a le manche en question se met à vibrer, qui vous indique que vous approchez de la vitesse de décrochage. Alors c'est très inconfortable, mais c'est très utile. Et puis, quelquefois, quand on est dans des situations où on a ce qu'on appelle du gradient de vent, des choses comme ça, on peut atteindre cette limite. Mais les pilotes sont toujours en action par rapport à ça. Je veux dire, on subit, c'est vrai, comme les passagers, mais on est de toute façon dans l'intention soit de se mettre en descente, soit de prendre un autre cap. Mais il y a des lieux sur la planète où malheureusement il faut y aller, quoi. Il faut passer, même quitte à quelquefois on se fait foudroyer. Hein. Voilà, bon, ça
vous avez déjà pris la foudre sur un avion, Gérard
Felzer ? On est beaucoup à avoir pris la foudre, hein. Mais c'est une cage de Faraday, on est protégé à l'intérieur, donc c'est pas un problème. En général, ça tape sur le radar, le dôme devant, mais en dehors de ça, c'est pas très dangereux, non.
Une question sur les appareils électroniques qu'on nous demande régulièrement, effectivement, d'éteindre quand on prend l'avion. Est-ce que ça peut vraiment poser des problèmes dans votre conduite, Gérard Felzer ?
Ça a changé la réglementation. Maintenant, on arrive à autoriser déjà quand on est au sol, etc. Donc ça s'est libéralisé, on a de l'expérience. Mais c'est vrai que ça peut perturber les communications notamment. Et au début, on était assez méfiants sur les avions tout électroniques et les interférences qu'il peut y avoir avec ça. Mais bon, voilà, ça fait des progrès. Hein.
Alors, il y a aussi la nourriture. Moi, c'est juste une question personnelle. Pourquoi c'est si mauvais à bord ?
Ça dépend des compagnies. Air France, c'est nickel. J'espère qu'ils vont m'offrir un billet. Non, je plaisante, mais ça dépend des compagnies. Ça dépend de la classe aussi, malheureusement. Il faut bien qu'il y ait une différence entre le mec qui paye
classe éco, normal.
Non, c'est pas mal, franchement. Hein,
vous n'avez pas le palais, pas fin gourmet.
D'ailleurs, les pilotes, vous savez qu'on leur sert des plateaux différents, d'origine diverse. C'est pas la même cuisine, c'est pas le même traiteur, pour pas qu'il y ait une intoxication alimentaire à bord. Ça serait dommage que les deux pilotes soient malades.
Ah, donc vous avez un plat qui vous est réservé, quelqu'un a goûté avant même?
Non, on n'a pas encore de goûteur, mais ça peut arriver. Okay.
Une dernière question, pour un peu l'avenir, je dirais quand même, des avions, puisqu'on le sait, sur vous êtes un spécialiste des transports, hein, Gérard Felzer, l'aviation, c'est quand même le seul secteur qui ne paye pas de taxes sur les carburants. Donc sans ce traitement de faveur, le billet serait beaucoup plus cher. Où est-ce qu'on en est là-dessus?
On traîne, tous les gens. Il ne peut pas y avoir d'accord partiel, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, je vous donne un exemple, transporter du carburant, c'est une aberration totale. On achète le carburant, on remplit l'avion de carburant. Quand il est moins cher, vous revenez de Los Angeles, vous avez besoin de, je mets au hasard, 50 tonnes de carburant, vous pouvez en mettre 70, vous mettez 20 tonnes de plus, sur ces 20 tonnes, vous en bouffez 10.
Juste parce que l'avion est plus lourd.
C'est complètement aberrant. Donc, économiquement, c'est un sens. Écologiquement, c'est un non-sens total. Donc, voilà, il faut un accord international. Et puis, l'aviation, c'est tellement époustouflant. Ça peut être magique. Et en même temps, quand je vois dans le bouquin où je parle d'aviation sans frontières, quand vous venez au secours des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre.
Et pour terminer, dans 30 ou 50 ans, quand il n'y aura plus de pétrole, on va faire comment? Il n'y aura plus d'avions non plus?
Bien sûr que si, il y aura des supraconducteurs électriques. L'avion électrique est déjà sur le papier. L'avion à hydrogène également, l'hydrogène qui n'émet pas de pollution. Non, on y arrive petit à petit. Puis aujourd'hui, le 380, quand vous le remplissez bien, c'est 2 litres au 100 par passager, c'est pas mal.
On fait des progrès.
À 800 km/h.
Merci beaucoup, hein, Gérard Felzer. Donc vous publiez Si tu peux, vas-y, journal d'un pilote aventurier chez XO Éditions. Merci beaucoup à Jean-Christophe Laminette, hein, en direct de France Bleu Aix-en-Provence. Donc merci à toutes nos équipes pour vous avoir accueillis. Et votre premier livre, donc avant les prochains, j'espère, Captain Speaking. Très bon livre, un inventaire malicieux à l'usage de passagers inquiets ou pas, chez Jean-Claude Lattès. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci à vous aussi, amis auditeurs, pour toute votre fidélité, toutes vos questions. Demain, comment avoir une communication fluide au travail, en famille, dans le couple, avec ses amis? On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. À demain. Portez-vous bien.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.
Autour de la question.